Bonjour, merci de nous retrouver pour cette deuxième émission Cultimag. Cultimag est un projet associatif de l'association Cultimatech en partenariat avec Mayuri Campus. C'est un projet associatif qui a pour but de professionnaliser des compétences, à savoir de nos jeunes bénévoles, de nos partenaires, autour du média que sont la web radio, la radio et les vidéos. Et donc, en partenariat avec Mayuri Campus, sur 3 mois, nous allons essayer de vous apporter du contenu autour du monde associatif en Guyane, plus particulièrement de la Cultimatech et d'une manière générale, tout ce qui peut toucher à la vie d'une association ou de nos supports d'activité.
Dans un premier temps, nous parlerons de vie associative avec nous parlerons de l'expérience d'Isaïa avec son association lycéenne, de moi-même, mon expérience en tant qu'universitaire, ainsi que de Cyril, et de son expérience en vie associative, très grande déjà. Puis nous enchaînerons avec du jeu vidéo, avec nos 3 intervenants qui nous parleront de la PlayStation 5 et de ses nouveautés, ainsi qu'un jeu très attendu pour l'année 2022. Et pour terminer, nous parlerons du fameux jeu Loup-garou, Loup-garou de Tiercelieu, et nous verrons ainsi des variantes à ce jeu très intéressant. Isaïa,
je vais commencer.
Ah, pardon, je me présente du coup. Ventos Nickel, toujours présentateur, entre guillemets, de l'émission Mayuri Campus, et je vais laisser la parole à Isaïa.
Notamment sur son projet associatif et en particulier cette pépinière donc, d'association en milieu lycéen. Et donc, quel était ton engagement premier et qu'est-ce qui a fait qu'effectivement tu as participé et puis surtout le cadre de ce que sont ces associations lycéennes?
Alors, donc, mon engagement premier, c'était plus avec les jeunes. Donc, ce qui était prévu normalement, nous, entre jeunes, on essaye de commencer notre vie quotidienne, mais d'une manière autonome. Et on a créé une association qui s'appelle l'éducation artistique et littéraire, qui était destinée aux jeunes étudiants lycéens, donc du lycée Melchior Garré, lycée Damas et lycée Félix Eboué. On avait créé cette association qui avait objectif justement de faire divertir les jeunes étudiants dans ce qu'ils aiment faire, donc, c'est-à-dire les talents. Donc l'éducation artistique et littéraire, c'est une association basée sur l'art et les talents.
Et quel était le cadre en fait, puisque apparemment c'était proposé par le lycée justement pour qu'il y ait une petite vie étudiante, etc. Quel était le cadre, quelles pouvaient être les autres associations lycéennes?
Alors à part l'éducation artistique et littéraire, on avait le club de journalistes, le club d'échecs. Ensuite on avait le club de journalistes, donc ça c'était plus avec les membres du CVL et les membres de l'MDL. Et ensuite on a aussi
le sigle, il signifie quoi? CVL, etc.
Donc CVL c'était le conseil de vie lycéenne, donc c'était les élus délégués titulaires et suppléants. Et l'MDL c'était la maison des lycéens, donc l'association loi 1901 de lycée.
Donc il y avait peut-être un dispositif au niveau du rectorat ou au niveau du chef d'établissement sur le contrôle ou l'accompagnement de ces associations?
Que pour l'association, donc la maison des lycéens, parce que ça c'est une association qui reste dans le lycée. Et pour le conseil de vie lycéen, c'est un accompagnement par le rectorat. Et pour nos associations, donc les associations qui ont été créées par les jeunes de l'établissement, étaient accompagnées par le proviseur et des personnes de l'extérieur.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel, puisque bon, à ce moment-là, tu devais avoir 16-17 ans, je pense.
Oui.
Qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel et qu'est-ce que tu as réussi à valoriser sur tes expériences?
Donc, grâce à ça, j'ai pu m'orienter vers autre chose, parce qu'à la base, j'étais dans cuisine avant, donc en stagiaire, qui était une filière de hôtellerie et restauration. Et grâce à cette association, j'ai pu changer pour aller en STMG parce que j'étais bien dans l'organisation et dans la mise en place des événements et tout. Donc la proviseure m'a proposé justement si je ne voulais pas faire ça parce que j'étais mieux en organisation qu'en hôtellerie. Donc elle m'a proposé d'aller en STMG, donc STMG qui est la filière de management et de gestion. Et puis à partir de là, je suis allé et puis j'ai aimé, donc je suis resté dedans.
Donc quelque part, c'est grâce à ton engagement associatif que tu as changé de filière, que tu as eu ton bac et donc que quelque part tu orientes ta vie de jeune adulte.
Exactement.
Voilà. Michael, toi aussi, je crois que tu participes à une vie étudiantine, oui. Cette fois-ci universitaire. Si Exactement. Tu peux nous en parler, le cadre et un petit peu tout ce que vous mettez en place, oui. Et à peu près comment les choses se font.
Alors moi, je suis référent de cette association-là. Alors référent dans ma filière, le master d'économie, développement durable. Il y a trois masters, donc du coup, dans la section économie, dans la filière économique plutôt. Et la SEG, qui est le nom de l'association, par contre, je ne me souviens pas de ce que signifie le sigle, mais la SEG représente toute la filière économique, donc de la L1, de la licence 1, jusqu'au master 2, où j'ai pu terminer. Et à quoi sert l'association ? Elle sert à orienter les étudiants afin qu'ils ne soient pas perdus, puisque un étudiant lambda, quand il arrive, il est lâché littéralement. Et par exemple, moi, c'était mon cas quand je suis arrivé en L3, parce que je n'ai pas fait la L1 et la L2. Donc, je suis arrivé directement en licence 3, ce qui m'a fait que j'étais complètement perdu, étant donné qu'ils considèrent qu'un étudiant qui est en L3 sait déjà tout, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et donc, pour s'aider à s'orienter, nous avons la SEG. La SEG permet également de mettre en place des projets s'il y a des étudiants qui souhaitent, par exemple, ressouder les liens entre étudiants. Ils peuvent faire une sortie
d'intégration.
Voilà, une journée d'intégration, par exemple. Il faudrait voir avec les différents représentants de la SEG pour essayer de mettre ça en place. On a essayé de mettre un projet, mais ça n'a pas pu aboutir. Covid,
de coup. Forcément, voilà. Le Covid a gêné beaucoup de personnes.
Et du coup, on n'a pas pu faire ça.
Cette association, c'est une association spontanée des étudiants qui prend place au sein de l'université, ou c'est l'université qui laisse l'opportunité à des associations, à des gens de s'organiser?
Oui, justement, étant donné que l'association sert aussi de passerelle entre administration, professeurs vers les élèves, donc du coup ils sont en forte relation, et c'est l'université, de ce que j'ai compris, c'est vraiment l'université qui laisse cette opportunité là aux étudiants. Et chaque filière possède sa propre association. Donc la filière droit et la filière économique et les autres filières. Et du coup, Cyril, tu as toi-même aussi une expérience de vie associative.
Alors forcément,
à nous raconter.
Je suis donc un petit peu plus vieux que vous, mais bon, moi aussi, j'ai commencé le monde associatif étant étudiant. Donc, ma première activité a été autour du Téléthon, où effectivement, en tant que étant dans une classe d'art plastique, nous avions proposé des projets culturels. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, je m'étais retrouvé logisticien pour aller chercher les sponsors, pour payer les contreplaqués, la peinture, et puis après, apporter à boire aux vrais artistes, dont je ne faisais pas partie. progressivement, j'ai eu aussi l'occasion donc de prendre mes premières connaissances dans le monde associatif, notamment via une association, Poussière d'Étoiles, qui avait donc un espace numérique qui s'appelait à l'époque Cybercafé. Et j'étais absolument pas dans le domaine de l'informatique ou jeux vidéo, en dehors de l'infographie. Et les un an et demi que j'ai apporté en bénévolat pour cette structure ont fait que ça a déjà dicté 6 ans de ma vie professionnelle, puisque ma première vie professionnelle était dans les cybercafés et les centres de formation. Et puis effectivement, ce qui nous conduit ici avec la Cultimatech, pareil, c'est aussi une volonté. Donc là, cette fois-ci, j'étais organisateur, j'étais parmi les membres fondateurs, et ma logique a été d'essayer de voir comment structurer une association. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté mon bouquin, j'ai posé des questions bêtes aux gens intelligents, et pendant 2 ans, j'ai préparé le projet associatif de ce qu'allait devenir la Cultimatech, en participant donc à des ateliers, boutiques de gestion, à l'ADI pour les accompagnateurs de projets. Et donc, de tous ces échanges, de toutes ces expériences-là, j'ai pu monter la Cultimatech. Et puis après, beaucoup d'apprentissage sur le terrain, effectivement, puisque c'est en étant sur le terrain qu'on voit les difficultés. Alors, contrairement aux associations universitaires et lycéennes, dans une association loi 1901 dite normale, il faut aller chercher des financements, des bénévoles. Et donc, effectivement, c'est sur le terrain que j'ai appris tout ça. Et puis, dans une prochaine émission, on abordera effectivement les sources de financement d'une association.
Et quelque part, la Cultimatech a plus de 10 ans, si on prend en compte...
Alors, en considérant qu'un Cultimatech est une émanescence, quelque chose de projeté de mon expérience personnelle, j'ai été rôliste, donc joueur de jeux de rôle depuis mon collège, et donc j'ai déjà créé une multitude de passionnés autour du jeu de rôle en temps et en heure, plus d'une soixantaine, ce qui n'est pas rien. Après, j'ai été dans les jeux de cartes à jouer à collectionner, c'est ce qui a payé mes études, donc Magic the Gathering. Après, j'ai monté le Cybercafé, du Cybercafé, je suis parti sur le pro gaming, les compétitions de jeux vidéo avec l'association Giga Games. Donc Colis pourra nous parler donc dans cette deuxième partie. Et puis sur la partie sociale, effectivement, mon interaction donc avec le Téléthon. Et puis pour la Cultimatech, initialement une association qui était plutôt tournée vers les passionnés, finalement s'est ouverte au social avec tout ce que pouvaient apporter nos contenus ludiques sur tout ce qui est jeux de société et autres. Et donc nous allons passer donc à la deuxième partie de l'émission avec une pause musicale avec Encore Malade de Sapeux Schémar, l'histoire d'un jeune qui essaye de motiver ses amis autour d'un projet qui vient de lui traverser la tête. Et donc dans la deuxième partie, Nickaël,
je vais annoncer Javier avec sa présentation de la PlayStation 5, puis ce sera au tour de Michael et de Colis qui nous parleront de jeux vidéo et de leur expérience autour du jeu vidéo.
Sapeux Schémar avec Grand Corps Malade.
Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui à 15h25.
Allô, Fab ? Ouais, c'est Samy. Eh frère, rappelle-moi d'urgence quand t'as le message. J'ai une idée de ouf. Non mais là, tu sais quoi, obligé, Sapeux Schémar.
Combien de bonnes âmes s'attendriront sur notre parcours? Peut-être les mêmes qui à l'ancienne n'auraient jamais cru qu'en ce jour le soleil caresserait nos ailes en donnant raison à notre zèle. Petite tête, tu me traitais de brêle, mes ambitions tu te foutais d'elles. Mais hélas pour ta gouverne, sache qu'on a bien repris les rênes, aussi sûr qu'on se démène pour ne jamais plus être à la traîne. On nous disait que ça craint là d'où l'on vient pour compter vivre de nos passions, au point qu'elles nous consument à petit feu sans rémission. J'ai dû slalomer pieds nus et sans ski. Il m'a fallu traverser la toundra et plus sans husky. Pour devenir maître de mon devenir, j'ai frôlé la crucifixion. Mais j'en ai conclu que nos rêves sont à notre portée. Encore faut-il accepter de souffrir pour les mériter. Alors si tu doutes et que t'en as marre, surtout n'enterre jamais l'espoir. Sur la pendule des acharnés, à tout moment ça peut schémar.
Des projets noués nos potes, on en a eu plein nos poches. Trouver la bonne idée au bon moment pour ne pas rater le coche. Quels que soient les domaines, social, culture ou dans le sport, il nous fallait tenter notre chance, on ne pouvait pas avoir tort. Des idées les plus farfelues aux projets les plus tangibles, étions-nous simplement têtus, rien ne paraissait inaccessible. Le plus grand des océans devenait pour nous une petite mare, lorsque cette phrase résonnait, je te jure ça peut schémar.
Ma raison d'être a pris le pas sur ma raison sociale, à toutes les prisons du paraître j'ai mis un retourné facial. Aviez-vous remarqué que l'ascenseur social est bloqué, et que les experts ont bien mieux à faire que de le réparer? Sur ma lancée, je devais poursuivre, alors j'ai pris les escaliers. Mais à ma grande surprise, il y avait plus de marche après le premier palier. On a donc dû relever les manches, t'as fait dur même les dimanches, quitte à se faire bébard. Et dans nos têtes, on se répétait en boucle, t'inquiète, un jour ça va schémar.
Je me souviens même plus vraiment quel était notre but final. Voir le quotidien différemment, tenter un truc original. Évidemment, ne soyons pas naïfs, on voulait aussi faire des sous. Mais si c'était le seul objectif, on aurait souvent été déçus. Finalement, notre ambition, c'était de se créer des rêves, s'offrir une vraie récréation, que le réel nous offre une trêve. Et puis surtout être fier de construire avec ses potes. On avait besoin de ça, grandir, pour changer d'époque. Combien d'heures accumulées, en bas de chez toi, dans la voiture, à refaire le monde et à dessiner notre futur. Combien d'idées d'excité on a cité au pied de ta cité. Et si t'es comme moi, tu en ferais la même sans hésiter.
À tous les gosses meurtris de briller dans l'indifférence d'une société qui les néglige puis les accuse de nonchalance. Un hymne amère patrie qui brise le talent et passe son cri sous silence. Une clameur se fait entendre et bat la mesure en cadence. France, des fois je te hais, parfois tu m'émeus. Mais souvent je me tais car je sais qu'au fond je t'aime. Mais il serait temps que tu rendes hommage à tous ces talents détruits. Fais donc ton tri au mérite et il y aura beaucoup moins d'aigris. Beaucoup moins de jeunes épris du lointain modèle états-unien. Parce que réussir ailleurs reste encore le seul moyen d'obtenir ton soutien. Si beaucoup se barrent, c'est pour chasser des chimères autre part que dans leurs cauchemars. Rappelle-les sur tes terres et montre-leur qu'ici aussi, pour eux, ça peut schémar.
Alors on a monté des projets loin des projecteurs, pour éviter les projectiles des rageurs jeteurs de sorts. Est-ce la mentalité de banlieue ou la mentalité française? Mais les meilleures idées sont souvent celles qui se taisent. Doit-on vraiment changer d'envie ou changer d'environnement pour se fixer des objectifs et les atteindre ouvertement? Des mecs qui jettent le mauvais œil, on en connaît depuis le préau. Je dois avouer que même entre nous, on sait pas toujours tirer vers le haut. On est fini de s'imposer notre propre censure, on n'a pas de censure les mains. Alors pourquoi ne pas être sûr qu'on est sur le bon chemin? Nous n'étions pas forts, mais ce passé nous a formés. Et plus jamais je me marre quand j'entends cette phrase résonner. Je te jure, ça peut schémar.
Grand corps malade, ça peut schémar. C'est très intéressant, franchement. Bon, maintenant, place aux gamers. On retrouve cette fois-ci toujours moi, Nickaël, pour présenter cette partie, avec, accompagné de Michael.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices.
Michael ainsi que Colis.
Et un salarié chez
la Cultimatech. Dans la Cultimatech, toujours.
Effectivement, et un passionné de jeux vidéo.
De jeux vidéo. Et Xavier.
Bonjour, futur membre du bureau et gamer de l'association Cultimatech.
Bien. D'ailleurs, Xavier, tu vas commencer par nous présenter un peu la console, donc la PlayStation 5, c'est bien ça?
Oui, alors effectivement, je vais vous présenter rapidement la console PlayStation 5. La PlayStation 5 est la nouvelle console de jeux de Sony. Elle est la 9e génération de la série PlayStation, qui est sortie officiellement le 19 novembre 2020. Cette nouvelle PlayStation arrive avec plusieurs nouveautés, dans l'espace de stockage qui est maintenant de 1 Tera, donc le double de ce que la PS4 nous offrait à sa sortie. Les services en ligne restent les mêmes, c'est-à-dire PlayStation Now, PlayStation Plus, qui nous permet de découvrir 3 jeux gratuits par mois, et le PlayStation Network, qui nous offre des options en ligne. À l'heure actuelle, la PlayStation 5 a plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Nous avons aussi des nouveautés au niveau de la manette PlayStation. Elle a été conçue pour améliorer l'ergonomie et la prise en main, notamment avec 2 types de manettes, DualShock, qui est la manette basique, et DualSense, qui est une manette qui nous permet de mieux ressentir les sensations et les vibrations. Nous avons aussi des nouveautés au niveau du casque, un casque qui nous permet d'avoir un son 3D, qui nous permet de mieux écouter le son du jeu. Aussi, le casque nous permet d'allumer et d'éteindre directement le casque via les boutons qui ont été rajoutés. Le casque nous permet aussi donc de muter nous-mêmes directement ou de muter des gens avec qui nous jouons en chat. Et elle nous permet aussi donc de jauger le son du jeu, c'est-à-dire de jauger entre le son de la chat partie et le son du jeu en elle-même, directement au lieu d'aller dans les paramètres. Mmh. Et donc du coup, je passe la main donc à Coulis qui va nous donner ses impressions.
Déjà, je pense que c'est très pratique ce genre de console. Moi-même, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment tester la PlayStation 5, mais Coulis apparemment... Enfin,
toi, oui, en effet, j'ai eu l'occasion d'y jouer et donc de faire cette expérience de jeu. Alors, de mes expériences, ça a été extrêmement agréable, puisque en fait, ça nous offre vraiment ce plaisir de jouer de par le graphisme, même les sensations au niveau des manettes, qui est justement la vibration qui permet de mieux ressentir les choses. On a vraiment l'impression d'y être dans le jeu. Voilà, ça nous plonge vraiment dans cet univers de ce monde virtuel et qui en fait qui nous
motive à l'acheter, à l'avoir. Mais moi-même j'ai remarqué, enfin, les options, j'aime beaucoup les options, surtout celui de muter les personnes qui dérangent. Mais franchement, j'aurais aimé en avoir une, mais je sais qu'il y a des petits soucis à ce niveau-là, au niveau de sur le fait de se procurer la PlayStation 5. Donc, je ne sais pas si tu es au courant,
oui, effectivement,
que ce soit au niveau des prix ou autre, du coup.
Alors, il faut savoir que depuis qu'il y a le Covid, tous les marchés sont en difficulté en ce moment, notamment Sony, qui ont des complications en termes de vente avec la console PlayStation. Au niveau de la conception du jeu, Et donc, ça fait que la console est en baisse en termes de consoles vendues. Mm. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle la console PlayStation coûte plus cher que d'habitude. Car bien évidemment, ils ont besoin d'être rentables, comme ils l'ont été à plusieurs reprises. Et donc, du coup, ils ont commencé à mettre en place des systèmes de parrainage avec des célébrités, des influenceurs. Mmh. C'est pour ça qu'on voit souvent sur le net des célébrités ou des influenceurs
avec la PlayStation 5
qui font des giveaways, qui vendent des PS5 mmh. en échange d'abonnés ou d'autres choses.
Moi, franchement, au-delà de tout ça, moi, ce qui m'embête, ce sont les petits malins qui s'amusent à acheter plusieurs consoles d'un coup pour ensuite les revendre à part beaucoup plus cher pour vraiment se faire de l'argent sur leur dos. Ils devraient juste limiter un acheteur une PlayStation et ça devrait aller, mais bon, pas tout ce qu'on veut, ouais. Mais heureusement, pour sauver les ventes de la PlayStation, il y a toujours des jeux beaucoup plus intéressants les uns que les autres. Par exemple, les exclusivités. Parmi les exclusivités, nous avons God of War, dont tu voulais nous parler, Michael.
Effectivement, dans God of War, qui sera une exclusivité PlayStation, donc. God of War, c'est d'abord l'histoire de Kratos, donc un Spartiate, de Sparte, qui commence d'accord en tant que soldat et qui a fait beaucoup de guerres. Kratos a du coup perdu une de ses batailles et, sous l'effet de l'humiliation et de la tristesse, implora les dieux, dont le dieu de la guerre, Arès. Et Arès donc entendit l'appel de Kratos et procura à Kratos les lames du chaos. Et grâce à ces lames, Kratos put vaincre n'importe quel adversaire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait pactisé un pacte avec Arès. Et Arès fut malin. Il a vu en Kratos le potentiel d'un guerrier implacable et invincible. Du coup, a décidé donc de piéger Kratos. Kratos, furieux de cet affront, décida donc du coup de tuer Arès. Mais en tuant Arès, Kratos se fit des ennemis, beaucoup d'ennemis, sans doute le plus gros de ses ennemis, Zeus.
Ouais, il me semble. Ouais.
Zeus, qui est indéciblement le père de tous,
le dieu des dieux,
effectivement. Et Zeus décida également aussi de piéger Kratos. Et oui, donc il décida de piéger Kratos, donc ça fait quand même deux fois qu'il s'est piégé, le pauvre. Hein.
Mais au-delà de tout ça, au niveau de ce qui arrive, du coup.
Du coup, oui. Donc, parlons du coup de reboot, donc du studio Santa Monica, qui a fait donc un reboot, cette fois-ci, non pas sur la mythologie grecque, mais sur la mythologie nordique. Donc, nous retrouvons du coup un Kratos beaucoup plus mature, plus calme,
plus
et
sage.
Un Kratos aussi qui a quelque chose à protéger, parce que, bien évidemment, Kratos a un enfant.
Il est papa, maintenant. Ouais.
Atreus. Atreus, son fils. Et du coup, nous apprenons dans l'histoire que la mère d'Atreus, donc la de Kratos, Faye, qui fut décédée, il décida donc d'aller sur le mont le plus haut pour envoyer ses cendres pour rendre hommage, sauf que dans leur péripétie, Kratos et Atreus ont attisé encore une fois
la colère des dieux
pour ne pas changer. Mais cette fois-ci, c'est pas Arès, mais Baldur qui intervient. Baldur, qui est donc le fils de Freya, l'ancienne épouse de Odin. Et du coup, nous apprenons que Freya avait ensorcelé Baldur. Qui
attention à ne pas spoiler.
Non,
au
mais
cas
c'est pas un spoil. C'est
cas, bah après, c'est vrai que le jeu est sorti depuis
2018. Et jeu du mois.
Jeu de l'année, même. Jeu de l'année.
Non, jeu de l'année, oui.
Et le jeu de l'année à sa sortie en avril.
À sa sortie en avril 2018. Et donc, du coup, nous avons tant attendu ce deuxième opus, voilà. Qui est le Ragnarok. Donc, le Ragnarok qui va sortir, du coup, en 2022, avec l'annonce de PlayStation. Le Ragnarok, bon, pour la petite histoire, c'est une catastrophe qui va opposer les dieux, les monstres et les valkyries. Le Ragnarok, c'est 3 ans d'hiver, de glace. Donc nous allons retrouver un Kratos et un Atreus qui a aussi grandi. Nous allons retrouver aussi plusieurs personnages qui étaient déjà dans le premier opus, comme bien sûr Freya, les nains Brock et Sigrid, et Mimir.
Ils sont drôle, ces petits noms. Ils sont très amusants. Et donc, au niveau des expériences de jeu.
Alors,
non, personne n'en a.
En termes d'expérience de jeu, si je dois parler bien sûr du
premier. Rapidement, histoire de.
De God of War.
Ou de tes connaissances en tant que joueur en matière de jeux vidéo. Quelques petites choses rapides, même au niveau de God of War, si possible. Ce que tu as ressenti. Il me semble que tu as joué au premier au plus quand même.
Ah, j'ai joué quand même à tous les God of War. Un grand fan de cette série. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est que. On nous montre vraiment l'égoïsme et la férocité des dieux, à croire que les mortels qui implorent les dieux se font pas souvent écouter, se font trahir, on apprend beaucoup de choses. Et je trouve que c'est bien de la part de Santa Monica qui respecte vraiment les mythologies, qui respecte un maximum, qui fait son maximum pour rester le plus, on va dire, en concordance avec ça. Et c'est franchement, c'est une série que j'ai beaucoup aimé. Étant un passionné de jeux d'aventure avant tout, quand même, c'est un jeu AAA qui était très, très, très attendu et très apprécié. Et le reboot a fait plaisir à plusieurs fans, hein, plusieurs anciens, qui a réconcilié pas mal de fans.
Moi également d'ailleurs. Pour finir, pour continuer sur le thème du slam, nous retrouvons Mirmonde. Ose de Mirmonde, oui, c'est bien ça. Notre petit slam très intéressant, guyanais cette fois-ci. Puis nous continuerons en troisième partie avec. Nous parlerons de Loup-garou cette fois-ci, du jeu Loup-garou de Tiercelieu. Et nous verrons donc ce qui se passera dans cette dernière partie. El Chacon on the track.
J'ai envie de me perdre, je suis à la bonne place, donc je m'en fous de tout perdre. Je m'en fous d'être pauvre, je suis riche de prose, je suis riche donc j'ose. Être moi, être chez moi, car en moi tout explose, tout brûle et chaque mot s'impose. Ma poésie c'est de vivre ma vie, pas de jouer un rôle, donc je suis moi. Je mire le monde depuis chez moi, ma Guyane du bruit pour moi, donc chez moi je suis forte. Je me sens puissante, donc je défonce des portes, pas besoin de clé, je m'en fous des codes. J'utilise mes cordes pour tracer ma route, apprivoiser mes doutes. Le chemin est long et périlleux. Mais qu'est-ce qu'il est bon parfois de faire court et de dire adieu. Qu'est-ce qu'il est bon de se battre ensemble et de le faire pour eux. Cette jeunesse aux rêves plus vieux. Cette jeunesse bancale qui joue à sauve qui peut. Qu'on casse à coups de couvre-feu. Cette jeunesse en feu. Je vais te faire un aveu. Jacques a dit de tourner à... Jacques est un con qui dit ce qu'il veut. Jacques est périmé, il est trop vieux. Toi tu es jeune et moins bavard. Dis rien, passe à l'action et tourne où tu veux. Sois là. Sois l'art. Sois toi autant que je suis moi. L'ascadé à tes papets de fois, Saïgain, sois toi. Soyons-nous avant que s'éteigne le feu. Soyons-nous, soyons fous et arrêtons de faire la queue. J'suis un chien blada panitant. Soyons chiens comme eux, l'aspect tant. Qui ça, moi ? Je ne fais pas les choses pour l'argent, mais pour les gens. Tous ceux qui ont voulu m'acheter, ils avaient des billets, mais pas assez. J'ai compté, il n'y avait pas assez d'amour. Ma passion me perdra, mais j'ai envie de me perdre, ok. Je suis à la bonne place, donc je m'en fous de tout perdre, les gars. Je m'en fous d'être pauvre, je suis riche de prose, je suis riche d'autre chose. Ma passion me perdra, mais j'ai envie de me perdre. Je suis à la bonne place, donc je m'en bonne place, tant que je m'en fous de tout perdre. Ma passion me perdra, mais j'ai envie de me perdre. Je suis à la bonne place, tant que je m'en fous de tout perdre. Ma passion me perdra, mais j'ai envie de me perdre. Je suis à la bonne place, tant que je m'en fous de tout perdre.
Monde avec Oz, un autre slam, un slam local en Guyane, par une Guyanaise surtout. Et donc, comme quoi on peut aussi faire des choses intéressantes ici en utilisant les supports qui viennent d'ailleurs. Donc, Michael, tu nous as parlé effectivement de tout cet univers mythologique, tantôt grec et puis scandinave. Et effectivement, tous les nouveaux supports, qu'ils soient jeux vidéo, jeux de société, s'inspirent des choses déjà existantes. Et là, nous allons parler par exemple de Loup-garou tiercelieu, qui initialement s'inspire d'un jeu traditionnel russe. Et donc, Mickaël, tu vas nous présenter tout simplement sommairement ce qu'est Loup-garou. Et puis, sur le reste de l'émission, nous allons davantage parler des expériences de jeu. Donc, pour ceux qui n'ont pas joué à Loup-garou, ça sera peut-être un petit peu abstrait pour vous. Et puis, c'est dans ce cadre-là où il faut vous rapprocher de l'association Cultimatech, justement, qui donne à jouer. Mickaël.
Alors, le Loup-garou de tiercelieu est un jeu à identité secrète. Un jeu qui peut se jouer jusqu'à une quarantaine, voire presque une cinquantaine de personnes. Donc vraiment très intéressant. Il est accessible à toutes et à tous. On peut jouer avec des enfants comme on peut jouer avec de grandes personnes. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'il se déroule sur deux phases. Donc une phase de nuit, une phase de jour. Donc la phase de nuit, tout le village va fermer ses yeux. Et en fonction des rôles que vous aurez, vous allez intervenir pour utiliser ou non vos capacités, vos pouvoirs sur les autres joueurs ou sur vous-même dans certains cas. Puis la phase de jour où vous devrez débattre, échanger, accuser pour éliminer un des joueurs, puisque l'objectif principal est pour le village d'éliminer tous les loups-garous. Et pour les loups-garous, l'objectif est d'éliminer tous les villageois tout simplement. Alors, j'ai l'habitude de jouer, je suis narrateur, donc, ainsi que Cyril, et parmi nous, nous avons quelques joueurs également qui ont aussi l'habitude de jouer, que ce soit avec moi, à la Cultimatech ou ailleurs, et j'aurais aimé que vous racontiez un peu ce que vous avez vécu en tant que joueur, par votre propre expérience, donc je ne sais pas par qui commencer. Michael, oui.
Franchement, le jeu de Loup-garou, c'est un jeu qui est super cool quand on est entre potes et qu'on n'a pas grand chose à faire d'autre, si on veut tuer l'ennui un peu, enfin si on est aussi suffisamment nombreux bien sûr. Et après, par expérience, moi il y a une partie qui m'a plutôt bien marqué, c'est, franchement je veux la raconter, elle a l'air drôle. Pour la petite anecdote, alors moi j'étais du coup loup-garou et le Cupidon avait marié moi et une autre personne qui était la sorcière.
Donc le Cupidon, et qui est l'un des personnages spéciaux, qui a le pouvoir d'effectivement marier deux personnes en changeant légèrement les règles, à savoir si l'un des deux amoureux meurt, l'autre meurt.
Donc effectivement, comme l'a dit Cyril, donc, j'étais marié et du coup la sorcière a décidé, par rapport à une rancune, je pense,
d'une ancienne partie. La sorcière étant un autre personnage ayant des pouvoirs spéciaux, savoir un droit de vie, un droit de mort, mais en pouvoir unique.
Et du coup, elle a utilisé son droit de mort, donc la potion de mort, pour se tuer. Et donc, du coup, en se tuant, ben, je suis mort également, puisque nous étions mariés. Et donc, du coup, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui
se suicide.
Voilà, se suicide littéralement dans le jeu pour pas me voir gagner. Voilà.
Il y a de tout dans le jeu du loup-garou. Et par exemple, Xavier aussi, tu as une expérience à nous raconter.
Sachant que c'est un jeu qui m'a toujours suscité de l'intérêt. Et au tout début, je ne voulais pas trop m'initier dans ce jeu, car j'avais un peu peur. Car comme je ne savais pas trop y jouer, j'avais un peu cette peur d'être la personne qui faisait peur de l'équipe et tout. Mais en me lançant, finalement, j'ai découvert que c'est un jeu qui est beaucoup plus attrayant que ça. Et que au fur et à mesure que je jouais, j'ai acquis de l'expérience, mais aussi j'ai acquis une envie de jouer au jeu. Et notamment, j'ai appris que l'expérience était très importante dans ce jeu, mais aussi que pas besoin de pratiquer mille 2000 stratégies et tout. Juste jouer, prendre son pied, avoir du plaisir et franchement, on peut passer de bons moments dans ces jeux.
Alors, donc pour moi,
c'était lors d'une sortie à la Mangrove, c'était dédié aux bénévoles. Alors on a lancé une partie loup-garou. Et puis ce qui m'a particulièrement marqué, c'était le fait de voir un joueur qui se reconnaîtra sur la table, bien sûr, qui a fait une performance d'acteur qui m'a particulièrement bluffé. Donc il était loup-garou, mais étant donné que c'est un beau parleur, il m'a carrément retourné le cerveau et tout le monde d'ailleurs qui était présent ce jour-là n'en revenait pas. Donc voilà, c'est ce que j'aime dans le loup-garou. On découvre des personnalités, des personnes qui sont très calmes en général, ou sinon, voilà.
Ce sont des petites techniques, écoute.
Voilà.
Au niveau du bluff, c'est vraiment la base du loup-garou. Moi-même également, je m'amuse à bluffer, à retourner un peu mon public. C'est ce qui me vaut d'être souvent mort à la première nuit. Au premier tour, vraiment, ça peut m'arriver de mourir assez souvent d'entrée, sans raison.
Ouais, effectivement.
Oui, Cyril.
Et donc, effectivement, Loup-garou de tierce lieu, justement, propose comme expérience ludique aux joueurs, déjà, d'avoir des stratégies en fonction de son rôle, de savoir qui éliminer, comment essayer de deviner les identités secrètes par rapport au comportement. Puisque naturellement, le poker face fonctionne énormément, c'est-à-dire l'attitude de la personne par rapport au rôle qu'elle pourrait avoir joué. Donc, on apprend énormément avec le langage corporel.
Oui.
Et puis après, effectivement, sur cette phase de jour où on peut se retrouver accusé sans aucune raison,
voilà,
devoir se défendre, et puis on peut être accusé avec toutes les raisons du monde et essayer de s'en sortir malgré tout. Et donc, effectivement, c'est un jeu qui permet de travailler sur l'auditoire, et puis effectivement, par rapport à l'aspect ludique et tous les effets attendus du jeu, que ça soit pour les enfants ou même pour les adultes, une espèce d'aisance orale, tout en réfléchissant, tout en analysant. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de ce jeu parmi tant d'autres. Et donc, moi, en expérience personnelle, effectivement, il y a une multitude de rôles qui existent, puisque plus il y a de joueurs, plus il y a de rôles spéciaux, etc. Donc, généralement, une partie, pour qu'elle soit agréable, ni trop longue, et pour qu'on ait la possibilité de rejouer plusieurs parties dans la même soirée, généralement, je préconise entre 15 et 20 joueurs, ce qui est déjà énorme. Et le minimum pour moi, c'est 8. Mais 8, c'est un petit peu délicat, puisqu'il n'y a pas plus de rôles spéciaux que ça, et donc d'interaction. Donc voilà, après chacun a ses propres jeux. Et puis on a des déclinaisons de règles qui se mettent en place. Comment élire le chef du village, comment mettre en place les choses, les scénarios et tout ça. Et donc l'une de mes expériences, c'est tout simplement la possibilité d'avoir éliminé donc jusqu'à 6 personnes le même jour. Tout simplement parce que justement le jeu des amoureux qui meurt si l'un des deux autres meurt, la sorcière qui décide de tuer quelqu'un, les loups-garous qui ont agi, l'incendiaire qui a brûlé d'autres personnes, etc., etc. Et donc effectivement, d'une grande table où il y a encore 15 personnes autour de la table, la moitié de la population disparaît. Et donc voilà. Et puis dans la joie et la bonne humeur, effectivement, le débriefing avec ceux qui critiquent le jeu des autres, ceux qui dénoncent ces vilains menteurs et autres.
Je pense que c'est une meilleure des parties la fin. Lorsque tout le monde discute autour de leur stratégie.
Explique ce qui s'est passé.
Voilà,
c'est quelque chose que j'aime bien faire, le petit débriefing. Puisque parfois, quand je suis narrateur, j'explique où a été le problème, à quel moment le village s'est retourné, puisqu'il y a des retournements de situation parfois vraiment improbables, que ce soit à cause des morts qui décident de parler, alors que les morts ne sont pas censés le faire.
Ah oui, les morts, il ne faut pas les
oublier. Les morts, c'est vraiment incroyable. Mmh. Et les villageois qui ont des illuminations et qui accusent des gens sans raison.
Et donc c'est l'un des rares handicaps de ce jeu, c'est qu'effectivement les premiers éliminés, généralement au hasard et à faute à pas de bol, sont juste là pour observer, regarder la partie. Et donc effectivement, je conseille à toute personne qui commence à jouer à loup-garou tierce-lieu, pour les soirées jeux entre amis ou en association, tout simplement de prévoir d'autres jeux à côté pour au fur et à mesure que les gens, s'ils ne veulent pas suivre la partie, suivent. Donc on vous remercie donc d'avoir suivi cette deuxième émission de Cultimag, une émission proposée par l'association Cultimatech en partenariat avec Mayuri Campus. Nous allons vous retrouver toutes les semaines pendant 3 mois où nous allons tâcher de vous présenter et le monde associatif qui nous caractérise, cette énergie de la jeunesse, cette volonté de bien faire les choses et de progresser par l'expérience. et aussi ce que nous, nous utilisons à la Cultimatech, à savoir les supports ludiques, en essayant d'alterner entre modernité, traditionnel, et puis tout ce qui peut après intéresser la Guyane au sens large du terme. Je vous remercie de nous avoir suivis, et puis peut-être un dernier mot de la fin pour chacun.
Pour le jeudi loup-garou, je sais pas, je n'aurais pas conseillé spécialement grand-chose, mais je vous remercie, moi également, de nous avoir écoutés au niveau de la deuxième partie, puisque j'étais tout seul cette fois-ci. Et quelqu'un d'autre ?
Moi, je vous conseille vivement de venir au passe-temps. Donc, c'est
donc si vous voulez. C'est bien ordonné.
Si ça vous intéresse, je suis là, je vous attends.
Ça a été un plaisir de vous présenter la PS5 et de faire ma chronique. Et j'espère être là pour la prochaine chronique.
Je vous remercie à tous et à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine.
Merci, au revoir.
Merci à vous.